CFAQ.ca.
Le balado que vous écoutez est une exclusivité de CFAQ.
CFAQ 88.3, l'essence de la radio.
Soccer Love.
Sometimes it may be good, sometimes it may be shit. No leave. Leave what? No leave. Leave what?
Ooh. Les Brésil ou pas, Ronaldinho, machin chouette.
Balotelli, Aguero.
Soccer love is amazing.
Bonsoir à tous et à toutes, chers auditeurs, chères auditrices. Vous écoutez Soccer Love, animé par Wissem Bensta. Et oui, bienvenue en ce début d'émission, en cette belle journée du mardi 23 février 2021. Et oui, déjà, presque à la fin du mois de février. J'espère que vous allez bien. Ici, comme d'habitude, de mon côté, ça va toujours bien. Donc écoutez, cette semaine, on a une émission un peu particulière parce que c'est la première fois, je dis bien la première fois, depuis que j'anime cette merveilleuse émission de Soccer Love depuis octobre 2020, que nous allons avoir un invité. Right? Nous avons un invité. Son nom est Alexandre Darrocha. C'est l'entraîneur en chef de l'équipe féminine de soccer des citadins de l'UQAM. Donc, un coach universitaire. J'ai réalisé une entrevue avec lui d'une quarantaine de minutes que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, encore une fois, on remercie beaucoup Alexandre Darrocha d'avoir accordé du temps à Soccer Love pour pouvoir nous informer, en fait, de son travail de coach et de qu'est-ce qu'il fait, en fait, dans la vie, d'où vient cette passion. Donc, j'espère que vous allez aimer cette entrevue. Cette entrevue va prendre une bonne partie de l'émission aujourd'hui. Mais évidemment, on va commencer tout d'abord par les tops et les flops, on va faire ça. Et puis on va terminer l'émission parce qu'évidemment, l'entrevue va être, on peut dire, au milieu de l'émission. C'est-à-dire, on commence par les tops et les flops, ensuite on y va en entrevue et on va terminer par des actualités, les matchs à venir, etc., etc. Tout ce qui est côté actualité, ben oui! Et comme musique aujourd'hui, eh bien, nous allons avoir, évidemment, du rap, du hip-hop. On va avoir du Saramé, nouveauté francophone. On va avoir du Laurence Nerbonne, nouveauté francophone, rap, hip-hop. Et évidemment, je vous ai mis un petit classique. Est-ce que vous y avez pensé? Quelle chanson de rap classique est-ce que j'aurais bien pu vous mettre? Est-ce que vous y pensez? 1994, l'album Ready to Die. The Notorious B.I.G. et la chanson Juicy, voilà. Donc, on va écouter ça tout à l'heure, chers auditeurs, chères auditrices. Donc, les tops et les flops, c'est maintenant. Mais avant, et oui, j'ai oublié, saluer les gens qui m'écoutent régulièrement. Donc, je salue Richie, Don, Bruno, Paloma, Claudia, Giuseppe. Je vous salue tous et toutes et j'espère que vous allez bien et que vous allez aimer cette émission comme la très grande majorité de nos auditeurs que je ne compte plus des centaines, des milliers, des millions, des milliards. Nous ne le saurons jamais. Donc, les tops et les flops, c'est maintenant à Soccer Love.
And sometimes it may be good, sometimes it may be shit.
Donc, vous l'aurez bien compris, tonight it's good and later it will be shit, because je commence par les tops et je termine par les flops. Et oui, je vais vous faire rejouer le jingle tout à l'heure parce que ça me plaît bien. Puis comme on dit en bon français, I'm the boss. Donc, voilà. Écoutez, on a beaucoup de tops cette semaine, comme d'habitude, les tops, les boss. Évidemment, je mentionne en tout début que Everton a battu Liverpool à Liverpool 2-0. Bon, c'est un derby parce que les deux équipes, c'est des équipes de Liverpool, mais j'en parlerai pas plus que ça. Voilà, c'est dit. Sinon, dans les tops, on a nos amis de l'Inter de Milan. Quelle belle performance. En plus du résultat, ils jouent bien. Ils ont des bonnes recrues, l'Inter de Milan. Lautaro Martinez, l'Argentin. Lukaku, le Belge. Eriksen, le Danois. Hakimi, le Marocain. Et Bastoni, l'Italien. Évidemment, certains de ces joueurs ont été cherchés là, il y a plusieurs années, mais c'est un beau travail de recrutement qui a été fait. Et ils ont tout simplement écrasé le AC Milan 3-0 avec deux buts de Lautaro Martinez, un but, une passe pour Romelu Lukaku. Lukaku qui est tout simplement... C'est tout simplement un excellent joueur. Il n'y a pas d'autre mot. Et le défenseur du AC Milan, Romagnoli, vraiment, là, c'est pas de niveau. Là. Pour un capitaine de l'AC Milan, là, il est à des années-lumière d'un ami Maldini. Sinon, Levante, un autre top, Levante, ben ils ont fait un nul et une victoire la semaine dernière contre l'Atlético Madrid. Et grâce à eux, ben ils relancent tout simplement la Liga parce que le Real Madrid est à moins de 3 points de l'Atlético Madrid. Et j'en parlais avec Richie la semaine dernière. Moi, je disais justement que pour moi, même si l'Atlético avait énormément de points d'avance, ben voilà, en deux matchs, l'écart est resserré. Et honnêtement, en plus que l'Atlético joue la Ligue des Champions... C'est... Je sais pas s'ils vont être capables parce qu'ils ont fait 1-1 contre Levante et finalement ils ont perdu la fin de semaine dernière 2-0 à domicile contre Levante. Levante qui est pas une équipe facile à jouer, donc félicitations à eux. On reste en Liga avec un ami suédois, Alexander Isak. 3 buts contre Alavés pour le Suédois. Et tout simplement, la Real Sociedad est cinquième grâce à lui. Il a 12 buts cette saison et c'est excellent. Et vous savez qui est le meilleur marqueur de la Liga avec 16 buts?
Il faut prévoir ces choses-là.
C'est surprenant, en même temps, c'est pas surprenant. Lionel Messi. Donc, malgré la saison coussi-coussa du Barça, ben Lionel Messi est tout simplement à 16 buts. C'est tout simplement le leader, le Pichichi, qui veut dire le meilleur marqueur de la Liga Española. En plus, sur les 16 buts, il y a seulement 3 buts qui ont été marqués sur penalty. J'aurais pensé qu'il y en avait beaucoup plus, mais non seulement 3. Donc, félicitations à Messi, même si je suis beaucoup plus pour Ronaldo. Mais Messi, good job, grand joueur, très grand joueur. Et évidemment, un autre grand joueur, Kylian Mbappé. Une chance aujourd'hui que je parle avec Alexandre Darocha, parce que sinon, je pense que j'aurais passé l'émission à parler de Mbappé. Il a marché sur le FC Barcelone avec un hat-trick, tout simplement. Tout simplement, il a remis Jordi Alba à sa place. Il a fait pleurer Messi une autre fois. Hein? Puisque Messi, on s'en rappelle, France-Argentine 4-3. Kylian Mbappé, 2 buts, en plus du penalty créé que Griezmann a marqué. Qu'est-ce que les gens vont trouver encore pour Mbappé? Je sais comment ça va marcher. Dans 2 semaines, dans 1 mois. D'ailleurs, la fin de semaine dernière, il a pas été bon contre Monaco. Ça va, ça peut passer. Ça peut se passer de temps en temps. Mais vraiment, moi, je vous garantis, dans 1 mois, on va ressortir les mêmes cassettes. Oh, Mbappé, il a juste sa vitesse, puis c'est tout. On entendait ça, là. Hein? Dans les prochaines émissions, je vais vous télécharger des audios. Hein? On va télécharger ça, là. Ben oui, hein? Des séquences audio de certains commentateurs qui nous expliquent que Mbappé n'a que sa vitesse et que Mbappé est en train de se neymariser. Ça, j'ai entendu ça là, ça fait moins d'un mois. Mbappé est en train de soi-disant se neymariser. Oh, l'attitude, oh, le comportement. Ben voilà le comportement au Camp Nou, il vous a fait danser, il a fait danser la planète foot encore une fois. Mbappé, c'est Mbappé. Même quand il marche, on dirait qu'il court. Là. Mbappé, c'est un boss. Sinon, ça va au Brésil. Brésil. Flamengo.
Pula, Deus pula.
Rio de Janeiro. A samba brasileira. Ils ont battu nos amis de l'Internacional. C'est pas international, mais c'est international. Porto Alegre. 2-1. La fin de semaine dernière. Et c'était un match capital pour le titre. Et évidemment, ils peuvent dire merci à Gabriel Barbosa, encore une fois, attaquant. Et Georgian de Arrascaeta, de Uruguay, avec un but, une passe. Ils ont tout simplement pris la meilleure position, la meilleure option possible pour être champion du Brasileirão, qui est le championnat brésilien. Parce que regardez ça, là. Maintenant, il reste un match à jouer. Parce qu'au Brésil, ça commence tout le temps un peu plus tard la saison. Donc là, il reste un match.
Okay, man.
Les deux équipes ont joué 37 matchs. Flamengo est premier avec 71 points. Internacional de Porto Alegre, deuxième avec 69 points. Donc, ce qui veut dire que... Ben que...
Hey man, what's your business, man?
Si Flamengo fait match nul et que Internacional gagne, right? Internacional va être champion parce qu'ils vont avoir le même nombre de victoires, ils vont avoir le même nombre de points, mais le goal average de Internacional va être meilleur. Donc, ce qui veut dire que Flamengo do Brasil doivent absolument, mais absolument, gagner contre Sao Paulo, qui Sao Paulo va jouer encore se battre pour la Copa Libertadores. Alors, il n'y a rien de joué. Et Internacional reçoivent Corinthians, qui eux n'ont absolument rien à jouer. Donc, ça va être une fin pas mal folle pour le championnat brésilien. Et on va rester au championnat brésilien. No Brasil, on a notre ami... comment il s'appelle déjà? Rodriguinho. 3 buts pour Bahia dans une victoire de 4-0 qui fait en sorte que Bahia, ce club du nord du Brésil, est officiellement sauvé de la relégation pour cette saison. Donc, félicitations à eux. Et pour terminer, ben dans les boss, on va parler de Monaco tout simplement, invaincu à leurs 12 derniers matchs et assurément vont être dans le top 4 français cette année avec bien sûr des excellents joueurs comme Wissam Ben Yedder et... Un petit mot pour Kevin. Kevin Volland. Ben oui! Voilà. Et donc, c'est pas mal ça. Donc, maintenant, ça me tente de continuer avec les flops. Donc, les flops, on en a quelques-uns. Donc, et oui, je répète la voix de Gennaro Gattuso. Sometimes maybe good, sometimes maybe shit.
Sometimes maybe good, sometimes maybe shit.
Ouais, c'est mieux comme ça. Écoutez, les flops, on en a quelques-uns cette semaine, comme à l'habitude. Ben oui, on fait ça pour voir Soccer Love. Écoutez, tout d'abord, Tunisie U20. J'ai regardé le match avec mon père. La Tunisie a perdu 2-1 contre la République centrafricaine. On parle de la Coupe d'Afrique des U20. La République centrafricaine, elle était très, très, très largement... c'était le underdog et la Tunisie a quand même réussi à perdre 2-1 contre la République centrafricaine. D'ailleurs, les deux buts ont été marqués à la 6e minute pour la République centrafricaine et l'arbitre à la fin du match a annoncé seulement 4 minutes d'arrêt de jeu alors que le match avait été complètement bousillé par des joueurs qui se laissaient tomber par terre pour gagner du temps. Il nous donne 4 minutes d'arrêt de jeu, mais à 3 minutes 15, alors en plus qu'il y avait un changement dans les arrêts de jeu, il siffle. Donc ça sent un peu, c'est fichier un peu en tout cas. Sinon, nos amis du Celtic, si on parle d'une autre équipe qui a bousillé son week-end, ben le Celtic Glasgow, qui sont très certainement exclus de la course qui n'existe pas en Écosse pour le champion écossais, parce que c'est Rangers qui va l'être probablement. Ils ont perdu contre Ross County. Ross County qui était coté à 15. Ils étaient cotés à 15 et ils ont perdu contre Ross County. Donc c'est une catastrophe. Nos amis du Hertha Berlin, c'est une victoire à leurs 12 derniers matchs. Probablement le pire club, est de loin des capitales européennes du Big Five. Donc Madrid, Rome, Londres, Berlin, Paris. Bon, Londres, il y en a plusieurs là, à part Fulham, on peut leur donner. Mais bon, on parle de Chelsea, Arsenal quand même aussi à Londres là, mais Hertha Berlin, c'est une catastrophe, ça va pas bien. Puis je me suis toujours demandé pourquoi est-ce que le club de la plus grande ville allemande n'a jamais été un si grand club que ça de foot. Ça pourrait être le sujet d'une émission, ça. On a Benfica, c'est une victoire à leurs 5 derniers matchs dans le championnat portugais. Donc c'est pas assez. Évidemment, eux aussi sont pas mal exclus de la course pour devenir champion du Portugal. Cristiano Ronaldo. Mais par contre, ils ont fait 1-1 contre Arsenal en Europa League. Donc ça peut être un bon résultat. Et nos amis, on va aller au Mexique. Aïe, aïe, aïe. Canta y no llores. Porque cantando se alegra el cielo y bonito los corazones. Ou los colores, j'oublie tout le temps. En tout cas, on parle de Pachuca. Ben oui, on parle de Pachuca. Pachuca qui est le seul club mexicain qui a gagné une coupe de la Comebol, donc qui est de la zone d'Amérique du Sud, parce que les clubs mexicains ont été invités avant à la Copa Libertadores et à la Copa Sudamericana. Et de toutes les fois dans lesquelles ils ont été invités, dis-je bien, le seul qui a gagné, c'est Pachuca, avec une victoire contre Colo-Colo dans la Copa Sudamericana en 2006. Et bien là, ils ont 2 nuls et 4 défaites en 6 matchs pour commencer la saison dans la Liga Mexicana. Ouais, et seulement 2 buts marqués en 6 matchs, donc ça ne va pas, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Discipline, mon frère, discipline. Voilà, donc c'était les tops et les flops. Maintenant, on va aller en chanson. On va aller en chanson. Non, on va pas aller en chanson, on va aller... Oui, on va en chanson, pardon. On va aller en chanson avec Sarah May et Le Cœur à ses raisons. Vous écoutez Soccer Love, animé par Wissem Bensta. Bonne écoute! Ben oui!
Sur le rinté, j'ai les corps déguisés. J'aurais pu tout abandonner. Avec le retour, je reconnais les sourires déguisés. Pour maman, je vais garder ma dignité. Pour sortir de l'ombre, y'a que la vérité. Seul dans ma bulle, j'polis ma pierre comme diamant brut. Ma passion mène ma raison. C'est le cœur qui guide mes pas. On dit que le cœur a ses raisons. La raison ne connaît pas. Ma passion mène ma raison. C'est le cœur qui guide mes pas. On dit que le cœur a ses raisons. La raison ne connaît pas. Le cœur est japonais, tu fais mes pas. On est sur le raté. Rince, t'es là, on produit juste. Mais retiens tes larmes, mais retiens tes larmes. Le cœur est japonais, tu fais mes pas. On est sur le raté. Rince, t'es là, on produit juste. Mais retiens tes larmes, mais retiens tes larmes. Ça fait des croyants dès le début. On a surmonté les obstacles un à un. L'autre modalité d'entrer dans la danse. Masque les apparences, fais pas dans l'arrogance. Toutes nos manigances. Si tu me connais, tu sais que je suis contre la justice. Je combatte ensemble pour soi inclusif. Seul dans ma bulle. Pour avancer la baffe, faut du recul. Ma passion mène ma raison. C'est le cœur qui guide mes pas. On dit que le cœur a ses raisons. La raison ne connaît pas. Ma façon mène ma raison. C'est le cœur qui guide mes pas. On dit que le cœur a ses raisons. La raison ne connaît pas. Le cœur est japonais, tu fais mes pas. On est sur le raté. Rince, t'es là, on produit juste. Mais retiens tes larmes, retiens tes larmes. Le cœur est japonais, tu fais mes pas. On est sur le raté. Rince, t'es là, on produit juste. Mais retiens tes larmes, retiens tes larmes. Retiens tes larmes.
Merci, je suis en paix, paix, paix. Merci, je suis en paix. La vie m'a béni. Dieu merci, je suis en paix, paix, paix. Dieu merci, je suis en paix.
Ma passion mène ma raison. C'est le cœur qui guide mes pas. On dit que le cœur a ses raisons. Que la raison ne connaît pas. Ma passion mène ma raison. C'est le cœur qui guide mes pas. On dit que le cœur a ses raisons. Que la raison ne connaît pas.
Donc, bonsoir chers auditeurs de Soccer Love à l'émission CFAC animée par Wissem Bensta. Donc écoutez, comme je vous l'avais dit, aujourd'hui on a un invité très spécial, quelqu'un de très 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 impliqué au niveau du soccer canadien et québécois, nul autre que Alexandre Darrocha. Alexandre, bonjour.
Bonjour.
Alors écoute, ça fait longtemps que je voulais avoir quelqu'un d'intéressant à l'émission. Parce que comme je te l'ai dit, tu es le premier invité de marque à mon émission, donc je suis très honoré de t'avoir, donc merci beaucoup.
Ça fait plaisir.
Est-ce que avant qu'on commence, je pense que c'est mieux si c'est toi qui te présente que si c'est moi qui te présente. Est-ce que tu voudrais te présenter un peu pour nos auditeurs?
Ben oui, écoutez, Alexandre Darrocha, donc actuellement, je suis directeur sportif au sein des programmes de soccer à l'école de Mortagne à Boucherville, entraîneur-chef de l'équipe des Citadins de l'UQAM, soccer féminin. Et je suis aussi entraîneur adjoint avec l'équipe nationale de futsal masculine senior.
OK. OK, wow. Puis l'entraîneur de directeur adjoint de l'entraîneur de futsal masculin équipe senior, le futsal, est-ce qu'il, comme les autres sports, est-ce qu'il a été sur pause complètement aussi? Ou?
Oui, malheureusement, nous, on a eu la chance d'avoir un voyage au mois de février, juste avant, là, peut-être un mois avant notre premier confinement qui s'est déroulé un mois plus tard. Donc, on a eu un voyage au Costa Rica qui devait être notre dernier parcours préparatoire avant les qualifications de Coupe du Monde qui se déroulaient deux mois plus tard au Guatemala. Et malheureusement, dû au COVID, ça a dû être annulé. Donc, physiquement, on n'a pas vu nos athlètes depuis un an exactement aujourd'hui. Là.
Wow, OK.
Oui.
OK. Puis, quand tu dis, j'imagine que les joueurs qui font partie de l'équipe nationale canadienne de futsal, j'imagine qu'il y en a qui doivent jouer dans la PLFQ, comme avec le Sporting Montreal, je pense que ça s'appelle.
Oui.
OK.
Exactement. Donc, ce qui est particulier du futsal aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas de ligue professionnelle chez nous en futsal. On vient d'avoir à peine notre première ligue professionnelle au soccer, donc le futsal, il faut peut-être attendre quelques années. Donc, effectivement, la majorité des joueurs québécois auraient joué dans la PLSQ. Les joueurs ontariens auraient joué un peu sur l'équivalent aussi du côté de l'Ontario. Mais on a quelques joueurs qui sont issus des clubs pro aux États-Unis qui jouent dans la Arena Football League, donc de soccer. Donc, le soccer intérieur là, avec les bandes de hockey. Donc, c'est un sport qui est quand même très populaire encore dans certains marchés aux États-Unis. Mais c'est sûr que là, dû au COVID, la plupart des activités actuellement ont simplement été sur pause depuis un an. La Ligue aux États-Unis, elle se poursuit malheureusement seulement deux joueurs actuellement de notre groupe évoluent, un à Dallas puis un en Floride.
OK, wow, OK, cool. Mais c'est ça, parce que le futsal, c'est juste un sport incroyable aussi. J'avais assisté à, je pense que ça fait deux ans, il y avait la finale à Kingston, c'était Sporting Montreal contre Toronto Idolo.
Toronto Idolo, oui, exactement, oui.
Est-ce que tu étais là?
Moi. Je n'étais pas là, j'ai vu tous les matchs via rediffusion qu'il y avait.
Okay.
Mais effectivement... Je vais pas te cacher que il y a quand même une bonne proportion de joueurs qui proviennent de ces deux clubs-là. Aujourd'hui, je pense qu'on a Farsi qui était avec le Sporting à ce moment-là.
Uh-huh.
On a aussi Safouane qui fait partie de notre groupe actuel là, de 27 joueurs. Et on a quelques joueurs de Toronto et de l'eau là, quand même. Là.
Non, mais c'est ça, c'est un niveau incroyable. Là. Puis le futsal, c'est. Moi, j'adore le soccer, mais le futsal, il y a ce côté aussi que tu ne peux pas vraiment perdre du temps trop longtemps parce que tout est calculé. Fait que ça me plaît.
Oui, c'est sûr qu'en termes de divertissement, pour le commun des mortels, le futsal il va définitivement capter une attention différente. Il y a beaucoup plus d'actions dirigées au but. Tu as constamment quand même les cinq joueurs, incluant les gardiens de but, d'impliquer dans l'action. Donc, c'est sûr que c'est un sport qui est très dynamique, très explosif.
Cool, cool. Puis, dernière question juste sur le futsal. Est-ce que tu penses, parce que la saison de futsal, normalement, est finie à peu près en avril, là, selon ce que je me rappelle, est-ce que tu penses que cette année, en exception, ils pourraient dire, ben si les choses vont bien à partir de avril-mai, on peut faire une saison de futsal de avril à septembre ou tu n'as aucune idée?
Non, malheureusement, je pense que ce ne sera pas le cas. Actuellement, la très grande majorité des joueurs de futsal, ce sont des joueurs aussi de soccer durant l'été. Donc, okay. Ça pourrait créer un conflit entre les deux. Il commence à avoir de plus en plus d'adeptes de futsal qui souhaiteraient jouer à ce sport 12 mois par année. Il y en a de plus en plus.
Ouais.
Mais ça va prendre encore quelques temps avant que ça soit le cas de façon officielle. Puis surtout, il faut comprendre autant les fédérations que les associations régionales, les clubs, ils doivent faire attention à comment qu'ils diversifient leur offre de services aussi.
OK. OK, cool. On n'a même pas cinq minutes dans l'entrevue, là, puis c'est déjà très intéressant. OK, fait que je voulais savoir, Ta passion pour le soccer, ça t'est venu d'où exactement?
Oh boy! Je te dirais, j'ai une passion pour le sport en général. Je suis un gros passionné, toujours été un bon sportif, là, athlète dans quelques sports, mais un bon sportif. J'aime essayer de tout. J'étais très actif. Lorsque j'étais au primaire, malheureusement, dans le quartier où j'étais à Montréal, le sport organisé était peut-être plus difficile d'accès ou peut-être plus difficile où il y avait moins d'organisateurs qui s'en occupaient. Donc, ça fait que mes activités s'est limitées avec mes amis. Donc, qu'on parle de jouer dans la ruelle au hockey, qu'aller au parc jouer au soccer, que jouer sur le terrain d'école. Donc, tout ce qui était porté sur le sport, je pouvais en faire des heures et des heures sans jamais m'épuiser.
Okay.
Plus tard, j'ai déménagé sur la rive sud de Montréal et j'avais un cousin qui jouait au soccer, donc on a su comment s'inscrire au soccer local. Donc, j'ai commencé à ce moment-là. Et en parallèle à l'école secondaire, j'ai commencé à faire du volleyball, puis un peu d'athlétisme aussi. Et voilà. Donc, j'ai toujours fait du sport dans ma vie. J'adore bouger. Donc, pour le soccer en tant que tel, le déclic, je pense que j'ai toujours aimé ça, mais j'ai pas pensé jusqu'à plus tard que je pourrais en faire une carrière après celle de l'athlète.
OK. OK, good. All right. Puis moi, aujourd'hui, je voulais un peu focusser sur ton travail, sur tout ce qui est soccer universitaire. Je voulais savoir comment est-ce qu'on devient entraîneur d'une équipe universitaire féminine? C'est quoi comment ça marche?
Mais à vrai dire, c'est certain que bon, ce sont des postes quand même assez rares au Québec. Hein. Il y a 15 programmes universitaires actuellement, donc 8 féminins puis 7 masculins à travers le Québec.
Ouais.
Il y en a quand même 8 dans la région de Montréal. Puis après, bon, il y en a trois à Sherbrooke avec Bishop. Il y en a 2 à Trois-Rivières, puis 2 à Québec.
Ouais.
Donc, c'est certain que ce ne sont pas des emplois nécessairement aujourd'hui permanents, mais ce sont quand même des emplois qui sont recherchés. Donc, c'est quand même c'est un environnement qui est agréable et quand même avec certaines ressources. Et c'est aussi une clientèle qui est intéressante. On parle d'étudiants athlètes universitaires. Donc, c'est vraiment une clientèle qui est fort agréable avec qui travailler pendant leur parcours d'études. Donc, moi, la façon que c'est arrivé, j'étais en préparation pour la Coupe du Monde en 2012. Le poste s'est ouvert à l'UQAM. Quelqu'un du réseau et aussi de l'administration à l'UQAM a communiqué avec moi pour voir si j'étais intéressé par le poste. Donc, j'ai appliqué pour le poste. J'ai passé l'entrevue et le jour même de l'entrevue, j'avais l'emploi qui m'attendait à mon retour de la Coupe du Monde.
Cool. Coupe du Monde 2012, on parle de féminine?
Oui, U20 féminin au Japon.
OK, nice. OK. Puis, c'est qui fait l'entrevue pour engager un coach universitaire?
En général, c'est le directeur du centre sportif ou le directeur du programme du sport d'excellence, okay, avec probablement le coordonnateur aussi du sport d'excellence. Okay. En général, c'est pas mal ces gens-là qui vont être, mais je pense qu'à la base, il doit y avoir un membre de la direction qui soit dans le processus d'embauche. Donc, je te dirais le directeur dans mon cas, moi, c'est le directeur du centre sportif qui était présent lors de mon entrevue.
OK. OK, cool. Puis maintenant, on va parler un peu des joueuses, parce que ce n'est pas des joueurs, c'est des joueuses. Bon, là, évidemment, cette année, c'est différent. On va y revenir un peu tantôt, mais il y a des camps d'entraînement, j'imagine, parce qu'à l'UQAM, j'imagine qu'il y a plus que 23 joueuses qui veulent jouer. Est-ce que tu as déjà eu à couper des joueuses au camp d'entraînement? Puis comment est-ce que on prend une décision du genre?
Oui, mais à la base, il faut déjà comprendre qu'une grosse portion de notre travail, c'est le recrutement. Donc, déjà avant que l'athlète décide de son parcours universitaire, nous, on entre en contact avec des athlètes qui nous intéressent et on leur explique comment fonctionne notre programme. Puis, on regarde avec elles s'il y a des programmes offerts à l'université qui pourraient les intéresser.
Okay.
Donc, je te dirais, il y a quand même 80-90% de l'effectif de l'automne que tu connais quand même assez bien parce que c'est des gens que tu as vu jouer soit en collégial 3A ou dans le réseau de soccer, soit en PLSQ féminine ou soit même dans le réseau 3A. Okay. Et même parfois même dans le 2A. Donc, c'est un peu comme ça qu'on fonctionne. Ensuite, on a des journées de période d'essai. Donc, autant à l'hiver qu'à l'automne. En général, tu as une ou deux filles que tu n'as pas contactées, puis qui a le niveau, qui vont réussir à faire le groupe à la fin. Okay. Donc, effectivement, tu as certaines athlètes qui vont se présenter et que malheureusement, tu ne peux pas sélectionner. Je pense que justement, du fait qu'on est dans un niveau universitaire, une athlète qui se présente au camp, et qui voit le niveau des athlètes qui sont là, par elle-même, elle comprend là, que c'est peut-être plus difficile pour elle de faire partie du processus.
Okay.
Mais malgré ça, on prend quand même le temps d'expliquer là, le contexte, la situation. Puis, je vous dirais, en général, ça se passe très bien. Il y en a même certaines qui décident de retourner, puis travailler fort, puis revenir l'année suivante, puis tenter leur chance. Puis c'est déjà arrivé que quelqu'un a réussi le coup après 2-3 tentatives. Donc, c'est pas impossible puis impensable.
OK. Puis, deux petites questions par rapport à ça. Fait que dans le fond, toutes les joueuses qui jouent à l'UQAM, là, ben, moi, j'ai été, c'est tout le monde sait faire un contrôle, sait faire une passe. C'est pas le niveau est quand même haut, là, parce que c'est à l'université, il n'y a pas de... OK.
100% de nos athlètes de l'effectif de l'année passée jouaient au niveau 3 ou au niveau semi-pro.
Bon, OK. Puis... quand vous dites vous faites du recrutement, dans le fond, est-ce que vous pouvez offrir quelque chose aux athlètes si elles décident de jouer avec vous? Comme par exemple, pas de frais les frais d'université ou des trucs comme ça? Ou...
Exactement. Donc, nous, à chaque année, notre direction nous donne le montant qui nous est alloué en bourse, qu'on appelle des bourses sportives.
Okay.
Donc, on a une enveloppe qui est discrétatoire, que c'est l'entraîneur qui décide là, des montants qu'il va remettre à quel athlète. Et on a aussi des bourses, ça s'appelle des bourses de recrutement. Donc une bourse qui est valable pour une année seulement. La plupart du temps, quand une athlète entre avec une bourse de recrutement, elle risque de garder le même montant pour ses années d'études qui vont suivre, mais elle va... Au lieu d'être une bourse de recrutement les années suivantes, elle sera de ce moment-là dans une bourse sportive qui sera incluse dans l'enveloppe qui est donnée. Donc, au niveau légal, on peut seulement rembourser les frais de scolarité d'un athlète. Tu n'es pas censé payer un athlète son hébergement ou quoi que ce soit. Donc, nous, de notre côté, là, c'est vraiment en général, c'est un remboursement de frais de scolarité qui soit partiel au total. Ça varie selon l'athlète en question.
OK, wow, OK, c'est cool ça. Fait que dans le fond, c'est donnant-donnant. Je vais jouer pour toi, mais vous payez une frais des frais d'université, des frais de
séance. Exactement.
C'est cool, OK. Question comme ça là, qui n'a vraiment pas rapport, mais je me suis toujours demandé ça. Est-ce que les joueuses qui ont un chat. Est-ce que le nom des joueuses est écrit sur le maillot en arrière?
Non, jamais.
Jamais?
Parce que la plupart du temps, les maillots sont. Ils durent plus qu'un an. Donc, des fois, c'est 2 ans, 3 ans le maillot. Donc, les athlètes changent. Des fois, c'est un produit qui est discontinué ou un produit qui est fait sous mesure. Donc, non, il n'y a pas de nom au niveau universitaire en général dans le dos des joueuses.
Donc, la joueuse ne peut pas garder son chandail comme souvenir.
Oui. Donc, quand l'athlète, elle quitte, effectivement, nous, nous à l'UQAM, on leur fait un cadre avec leur chandail de match.
Okay.
Qu'ils ont porté le dernier match. Donc, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une copie du chandail qu'elle a mis.
Nice, OK. Puis, est-ce que les joueurs sont fournis, mettons, en running shoe, en souliers de soccer à crampons, en veston, en pantalon de sport? Est-ce que tout ça, c'est fourni par l'école en général? Ou?
Ouais, donc, à vrai dire, l'athlète m'a fourni ses souliers protège-tibia, ça lui appartient.
OK.
Mais tout ce qui est kit d'entraînement, kit de match, survêtement d'entraînement, survêtement de voyage, manteau d'hiver, tout ça, c'est fourni par le centre sportif.
Nice, OK. J'aime ça. Puis dans le fond, j'imagine kiné, physio, tout ça, ça fait partie des services auxquels ils ont accès parce que...
Exact. Donc, nous, on a accès à un service de physiothérapie, surtout de thérapie sportive gratuitement. Donc, sur rendez-vous, et à chaque entraînement et chaque match que nous avons, la thérapeute du sport, elle est présente avec nous sur le terrain.
OK. Aussi. Parfait. Puis...
On a aussi un service assez incroyable de kinésiologue. Donc, on a un kinésiologue avec nous en tout temps et on a accès à une salle d'entraînement là, qui est destinée à nous, les citadins, pour faire les entraînements selon nos horaires d'école.
OK. OK, génial. Maintenant, on va plus aller dans ton travail. À quoi ça ressemble le travail d'un coach d'équipe universitaire? La routine, dans le fond, il y a combien d'entraînements par semaine? Les déplacements, ça marche comment? Est-ce que vous dormez là-bas? Comment ça fonctionne, en fait? Qu'est-ce que ça fait un coach d'équipe universitaire, en fait?
Il y a vraiment, je vais te donner, il y a vraiment trois périodes dans l'année pour nous. Donc, la première période, c'est vraiment du début du mois d'août jusqu'au début du mois de novembre. Je vous dirais, on voit très peu notre famille puis nos amis. On est à 3 entraînements par semaine minimum. Okay. On est à 2 matchs par week-end, donc un le vendredi, un le dimanche.
Ouais.
On est quand même chanceux parce que nous, on est à Montréal. Donc, on a 10 matchs à Montréal puis 4 à l'étranger. Lorsqu'on voyage à l'étranger, on voyage bien sûr les garçons et les filles.
Ouais.
Donc, si je prends un match comme, mettons, si on va jouer à Québec, si on joue à Québec un vendredi, en général, on joue les vendredis à 18h avec les filles et 20h30 avec les garçons ou 20h15 avec les garçons. Pour un match de 18h, on va arriver en général vers 15h30.
Okay.
Donc, on va quitter à 12h30 le campus. Le match des gars va se terminer vers 10h30. Ils vont prendre leur douche. On va être à la maison à peu près vers 2-3h du matin. Donc, okay, c'est une journée...
Pas sur place.
Non, on revient le jour même. Donc, c'est une journée qui est très difficile. Si on prend, par exemple, un voyage de vendredi, donc on arrive à 2h du matin à la maison, on se couche. Le lendemain, c'est une journée un peu bizarre. On fait un peu de travail. Puis le dimanche, on joue un autre match. Donc, potentiel qu'on voyage... Logiquement, c'est à Montréal, mais c'est déjà arrivé qu'on fasse 2 voyages le même week-end.
Okay.
C'est très difficile à ce moment-là, mais c'est déjà arrivé.
OK.
Donc, voilà.
Est-ce que l'équipe masculine puis féminine, généralement, comme ils voyagent ensemble, puis bon, est-ce qu'il y a une solidarité? Est-ce qu'ils sont un peu... est-ce qu'ils sont vraiment solidaires entre eux? Bon, sont-ils amis? Est-ce qu'il y a vraiment une belle ambiance entre les deux ou c'est plus c'est très séparé puis chacun fait ses trucs?
Ouais. Ben, c'est certain qu'il y a toujours une certaine affinité, relation qui se développe, mais je vous dirais que c'est quand même 2 équipes qui voyagent ensemble pour un même programme.
Okay.
C'est certain que chacun... j'ai un exemple, quand on va jouer notre match, ben, les deux sont un peu dans un état d'esprit pour leur match. Puis au retour du match, ben ça se peut que les gars gagnent, les filles perdent. Fait que dans l'autobus, le voyage de retour, ben il est peut-être plus agréable pour les garçons ou peut-être moins agréable. Tu sais, je veux dire, il y a quand même un respect de chacun là, dans le contexte. Mais non, je te dirais, il y a quand même une ambiance
okay.
qui est agréable là, entre les deux équipes.
OK. Puis comme on travaille quoi comme coach en général? Bon, là, je sais que c'est une question très, très, très grande. Moi, j'ai eu l'occasion de coacher, mais c'était à un niveau amateur. Est-ce que c'est plus la technique, le physique, le mental? C'est quoi qui est le plus important? C'est quoi ta philosophie, en fond, à toi?
Oui, c'est ce que j'ai fait juste avant, c'est qu'on avait comme 3 phases durant l'année.
Oui.
Donc, quand on finit le mois de novembre, on a une petite pause, puis après on reprend, puis on a une ligue d'hiver qui, à ce moment-là, est plus allégée, c'est un match par semaine seulement. C'est sûr que notre préparation physique, elle se fait beaucoup du mois de décembre jusqu'au mois du mois d'août. Donc, notre préparation physique, elle est importante à ce moment-là. Quand on arrive... au mois d'août, on est beaucoup axé sur le jeu et beaucoup axé sur notre projet de jeu puis notre façon qu'on veut qu'on veut attaquer, puis la façon qu'on veut défendre, puis de trouver les meilleures combinaisons aussi selon les adversaires. Puis aussi, il faut comprendre que, contrairement à ce qu'on peut voir parfois là, avec les équipes pro en Europe, ouais, en ayant toujours deux matchs en 36 heures, parce que c'est même pas 48 heures, tu peux pas penser que 11 joueuses vont jouer les deux matchs à 90 minutes avec efficacité un à l'autre. Fait qu'il faut savoir jongler l'effectif correctement. Donc ça, c'est le plus grand défi qu'on a. Puis c'est surtout qu'on a trois pratiques. Bon, nous, on pratique le mardi, mercredi, jeudi. Et on a un match vendredi. Donc le match vendredi est toujours bien préparé. Mais celui du dimanche, le samedi, on fait rien. On est en repos le samedi. Donc pour se préparer pour le dimanche, c'est plus compliqué, là. Donc, c'est une gestion particulière qui est propre vraiment au soccer universitaire actuellement. Non?
OK. OK, cool. Puis, est-ce que la troisième partie, tu avais dit…
La troisième partie, c'est vraiment, bon, durant l'été. Donc, durant l'été, c'est là que les athlètes, à partir du mois d'avril, mai, juin, juillet, bien, ils jouent en club. Donc, pour nous, c'est clair que c'est le contexte est bien parce que bon, ils retrouvent un peu leurs racines, où est-ce qu'elles ont fait leur truc, mais souvent, la préparation physique en club durant l'été n'est pas au niveau de celle qu'on souhaite. Donc, nous, on doit quand même trouver un moyen d'être certaine qu'elles arrivent en condition physique au mois d'août. Donc, à ce moment-là, on offre des programmes là, aux athlètes, puis même des séances d'entraînement aux joueuses actuelles qui peuvent se venir sur place. Juste en préparation physique à ce moment-là.
OK, OK, cool. C'est très intéressant, là. Très, très, très intéressant. Quand tu disais Ben, évidemment, ils jouent le vendredi, ils jouent le dimanche. C'est quoi la philosophie, ben, pour toi, je ne vais pas dire pour le soccer universitaire, mais pour toi, parce qu'on sait que souvent, quand c'est un peu plus compétitif, c'est les meilleurs qui jouent, puis ceux qui sont moins bons, ils restent sur le banc. Est-ce que toi, tu t'assures que tout le monde joue plus ou moins égal, ou c'est vraiment c'est compétitif, donc ben, ceux qui t'en donnent plus sur le terrain, avec qui tu vas avec ceux qui peuvent te faire gagner, et les autres qui sont un peu moins doués, ben, ils vont passer plus de temps sur le banc?
Ouais. Mais c'est certain que bon, on est tous un peu là quand même. Je pense qu'à la base du niveau universitaire, les résultats sont quand même assez sont aussi importants. Bon, je pense que chaque athlète connaît un peu son rôle avant le début de la saison. On les rencontre individuellement, ils savent un peu à quoi s'attendre, la saison qui s'en vient. Il y a toujours des surprises en cours d'année, il y a des blessures qui surviennent, il y a des gens qui performent moins que prévu, donc. L'important, c'est l'état d'esprit d'être toujours prête. Donc, à ce moment-là, c'est que, je vais prendre un exemple, il y a une fille l'année passée, l'automne 2019, désolé, qui s'est retrouvée à pas voir le terrain pendant les 6 premiers matchs. Donc, elle n'a pas touché à une minute sur le terrain. Et les 8 derniers matchs de la saison, plus les 2 matchs de série, donc les 10 matchs suivants, elle n'a jamais quitté le terrain. Okay. Donc, si son état d'esprit était pas bon lors des 6 premiers matchs, puis que bon, elle se laissait emporter émotivement par le fait qu'elle ne jouait pas, elle n'aurait pas pu performer puis rester sur le terrain puis les 10 matchs suivants. Okay. Donc, c'est nous, notre travail à nous comme équipe technique, c'est vraiment de mettre les meilleurs éléments sur le terrain à chaque semaine puis à chaque match. Donc, pour nous, c'est ça qui est important.
OK, okay, excellent, excellent. Maintenant, si je te dis, je peux te tutoyer?
Oui, t'as fait, oui, t'as fait.
Okay. Si je te dis novembre 2019, à quoi est-ce que tu penses?
C'est sûr qu'on a un souvenir amer de ce moment-là. Uh-huh. Je pense sincèrement que les Stanley de l'UQAM, cet automne-là, on avait peut-être la meilleure équipe au pays. Bien sûr, une rivale à nous, l'Université de Montréal, qui ont quand même un palmarès quand même éloquent en termes de championnat. Uh-huh. Ils nous ont battus en finale 2-1 cette année-là.
Ouais.
Dans, je dois dire, là, qu'en plus de 20 ans d'années de coaching, dans probablement les climats le plus bizarre dans lesquels qu'on a joué. Là. Donc, des vents plus qu'importants, de la pluie abondante, pas très chaud. Ça a été vraiment, là, pour moi, une des pires conditions climatiques dans lesquelles que j'ai joué. Ce n'est pas une excuse du résultat, mais ça n'a pas donné, ça a pas fait place à un match qui était de très belle qualité, je vois dire.
OK.
Et nous, ce qui nous distingue beaucoup dans notre jeu, c'est dans notre qualité de notre jeu qu'on offre. Mais donc c'était très, c'était définitivement une date difficile pour nous toutes. Mais regarde, on a 2 ans pour s'en remettre, on a une année de COVID, donc on devrait être remis à l'automne 2021.
OK. Le match au stade Saputo, mm-hmm. ben, celui qui est à côté, là, dans le coin.
Le terrain Saputo, exact.
Oui, c'est ça. Puis, bon, qu'est-ce que tu dis à tes... Déjà, est-ce que tu penses que sur la physionomie du match, puisque l'Université de Montréal a gagné 2-1, est-ce que tu penses que leur victoire était méritée?
Clairement, quand tu marques plus de buts que l'adversaire, je veux dire, ta victoire, tu la mérites. Mais en termes de... Je pense pas qu'on a offert nécessairement la qualité de jeu qu'on est habitué de faire, mais de dire qu'on méritait de perdre, je pense que je refuse de dire ça. Okay. Je veux pas enlever le crédit à l'adversaire non plus, mais de dire que nous, on méritait de perdre, je ne pense pas qu'on méritait de perdre ce match-là.
OK.
Dans toute franchise.
Parce que je regarde le classement cette année-là, là, 2019, quand vous avez joué la finale, vous aviez joué 12 matchs, ben 14 matchs. 12 victoires, une défaite, un match nul. Puis je pense que la seule défaite que vous avez dans la saison régulière, c'était contre l'Université de Montréal.
Exactement, chez eux, 1-0. Donc, dans un endroit très difficile au jeu, hein, je dois le dire, c'est vraiment le stade un des plus... Je ne veux pas dire intimidant, mais difficile à jouer. Okay. C'est aussi un des terrains qui est petit dans la Ligue, donc ça enlève un peu de notre capacité de jouer sur nos qualités premières qui sont d'occuper l'espace et d'utiliser notre vitesse. Donc, c'est certain là, que ça jouer chez eux, c'est toujours un défi important.
OK. Puis, quand tu rentres dans le vestiaire après, est-ce que c'est le vestiaire là-bas, là, c'était au stade Saputo à côté, là, c'est le petit bâtiment.
Centre Charbonneau, exemple. Le Centre Charbonneau, on a un vestiaire qui est à nous là. Faut dire que lors de ce match-là, malgré les conditions climatiques, il y avait quand même beaucoup de monde dans les estrades, dont plusieurs anciennes du programme qui ont été là les 8 années précédentes là, où j'étais là. Et elles se sont tous retrouvées devant le vestiaire à attendre les joueuses. Ça a été un moment super émotif, mais la présence des anciennes ont juste permis de comprendre à quel point notre programme avait grandi depuis 2012. Lorsque j'étais arrivé à la barre des citadins, on était classé 49e sur 52 pays. Et donc, 9 ans plus tard, on était dans le top 5 là, au pays, là, au moment que le classement sortait à chaque semaine.
Uh-huh.
Donc, tu sais, je veux dire, oui, c'est un résultat qui est décevant. Oui, c'est un moment qui était peut-être un peu plate à vivre, mais ça ne veut pas enlever rien au processus qui a été fait pendant les 9 années qui ont suivi. Là, donc, je pense que ça, la présence des anciens a permis de plus avoir un pansement là, sur le résultat à la fin.
Et toi, comme entraîneur, comment ça se passe? Est-ce que c'était-tu un speech émotif où il n'y avait tout simplement rien à dire? Ou
Oui, c'était émotif. Oui, c'était pas un speech. C'est peut-être le speech le plus difficile à faire depuis que je suis à la barre des citadins. C'était peut-être un des plus difficiles à faire aussi au courant de ma carrière. Mais je pense qu'un seul mot qui devait être retenu de ce moment-là, c'est de dire à quel point j'étais quand même fier uh-huh. De ce que les filles avaient accompli et de tout ce que toutes celles qui ont passé avant avaient accompli aussi. Donc, je pense que c'est vraiment sur ça que j'ai propagé le truc, puis j'ai dit écoutez, tout ce qu'on peut faire maintenant, c'est de se souvenir de ce moment-ci, puis de faire en sorte qu'ils ne se reproduisent plus dans l'avenir si on a à le revivre. Et c'est un peu ça. Mais ouais, ça a été, oui, c'était émotif, okay. Définitivement.
OK, cool, cool. On va y revenir un peu tantôt, mais pas directement là-dessus, là, mais sur un autre aspect. Je voulais savoir, en temps de pandémie, comment est-ce qu'on travaille comme coach universitaire? Comment est-ce que les joueurs se préparent? Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, temps de pandémie, c'est là, là.
Oui. C'est vraiment un défi. C'est vraiment un défi. Mais il y a quand même eu du positif pour nous, dans le sens qu'on a trouvé des méthodes et des moyens qui vont nous servir pour les années à venir. C'est certain que ça a été... nous, on est arrêtés à la mi-octobre. Okay. Donc, on a quand même laissé un mois, là, voir là, est-ce que des choses allaient se stabiliser puis revenir un peu. Finalement, non. Donc, à partir de la mi-novembre, ben ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des appels individuels à chaque athlète, déjà voir comment qu'elles allaient, comment se comportaient, s'ils avaient besoin de soutien ou d'aide ou de peu importe. Et à partir du mois de décembre, on a commencé à faire des entraînements virtuels, donc surtout en préparation physique. Et on a poursuivi nos rencontres individuelles. On a poursuivi des rencontres de sous-comité, donc avec des athlètes qui ont été identifiés comme les leaders potentiels et les leaders à venir. Okay. On a aussi créé des groupes d'amis coéquipières, c'est-à-dire que les six anciennes, mais prenaient sous leur aile deux athlètes. Puis devait s'organiser pour se faire des rencontres, soit virtuelles ou soit aller faire du patin ou aller se promener au parc en respectant la distanciation. Mais c'était pas nécessairement des gens avec qui ils étaient habitués non plus de côtoyer. Donc, parce qu'il faut comprendre que pour une recrue actuellement, c'est très difficile. Mm-hmm. Moi, j'avais deux recrues actuellement qui venaient de Québec, qui ont aménagé à Montréal, qui ont été à Montréal pendant 2 mois, qui ont retourné à Québec. Donc, elles n'ont pas vécu aucun match encore avec l'équipe. Elles ne connaissent pas beaucoup les filles. Elles ne connaissent pas beaucoup la ville. Et étudient à la maison. Donc, c'est ce qu'on a fait. Puis, je dirais, à date, on a quand même un bon feedback positif. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui vit le confinement pareil, ça c'est certain. Mm-hmm. Mais on est quand même là, on est à l'affût. On a même avec nous maintenant, on a ajouté au staff un ancien étudiant athlète de basket à l'UQAM qui est qui a fait sa maîtrise en psychologie en Angleterre après son bac à l'UQAM et qui travaille avec nous actuellement, qui autant dans les rencontres individuelles collectives et il y a des athlètes qui font appel à lui potentiellement pour avoir de l'aide souhaitée. Donc, voilà. On a su ajuster quand même la situation. Je dirais avec les possibilités qu'on a actuellement, je pense qu'on maximise ce qu'on peut aller chercher.
OK, génial. Juste petite question, tu en as parlé tantôt. Dans le fond, il y a deux saisons. Il y a la saison qui va jusqu'en novembre là, pour soccer extérieur puis soccer intérieur. Est-ce que la saison de soccer extérieur, est-ce que vous, je ne sais pas, là, je dis ça, mais est-ce que vous la qualifiez comme la vraie saison puis l'autre, le soccer intérieur, c'est un peu plus, c'est moins important ou les deux sont aussi importantes l'une que l'autre? Du moins pour être champion.
Oui, c'est sûr que celle de l'automne, c'est la seule qui offre la possibilité d'avoir un championnat canadien. Donc, c'est certain que celle-là, c'est la plus importante. C'est celle envers laquelle on est le plus engagé, laquelle on maximise notre volonté d'avoir des résultats. Quand on arrive à la saison d'hiver, ben l'objectif, c'est de voir les athlètes peut-être que tu as vu moins à l'hiver, donc les voir moins à l'automne, les voir un peu à l'hiver, en prévision de l'automne suivant. Donc, c'est une bonne saison préparatoire.
Okay.
Ce que j'aime beaucoup plus des saisons d'hiver, par contre, c'est qu'on a un seul match par semaine. Donc, c'est plus simple comme gestion, là, vraiment plus simple.
OK, cool. Ça, c'est une question que j'étais extrêmement curieux de savoir. Bon, je suis très curieux, donc s'il y a des choses que tu ne veux pas dire, tu ne dis pas. Mais
non, ça va.
Est-ce qu'on peut vivre seulement du travail de coach universitaire soccer féminin? Est-ce que le salaire
actuellement, tu as 3 personnes sur les 15, 4 personnes sur les 15 universités qui sont à temps plein pour leur université comme entraîneur de soccer. Donc, tu as les 2 entraîneurs à l'Université de McGill, tu as l'entraîneur à Bishop, puis tu as l'entraîneur à l'Université de Montréal.
Patrimondo.
Donc, ce sont les 4 seules personnes qui vivent à temps plein, qui sont employées à temps plein par l'université pour diriger. Tous les autres entraîneurs, sans ma connaissance, devraient se retrouver à ce que j'appellerais près d'une demi-tâche, même peut-être certains un tiers de tâche.
OK.
D'un job à temps plein.
OK.
Donc, voilà.
Mais c'est drôle parce que tu dis, Bishop, je me serais attendu que ça soit la dernière place ou est-ce que ça soit à un entraîneur à temps plein pour le soccer?
Non. Non, mais à vrai dire, à Bishop, je pense qu'il y a d'autres tâches qui viennent avec.
OK.
Mais je sais qu'il s'occupe aussi de l'équipe de garçons en même temps. Okay. Une équipe de garçons qui joue dans une ligue inférieure au niveau universitaire, qui n'est pas reconnue par les U Sports. Puis, comme c'était le cas déjà à Miguel il y a quelques années, ben il y avait des tâches qui venaient avec ça au niveau administratif. Mais à ma connaissance, ce sont les 4 seuls aujourd'hui qui sont à temps plein pour leur école dans le poste d'entraîneur de soccer.
OK. OK, cool. Puis, est-ce que tu... Moi, ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué, là, parce que moi, tout ce qui est soccer, je dirais amateur, semi-pro, PLFQ, PLSQ, universitaire, 3A, je vais voir les matchs. Parce que souvent, c'est gratuit. Souvent, c'est pas cher. Puis surtout, tu es à côté de l'action, puis tu peux voir comment les joueurs interagissent, qu'est-ce qu'ils disent, puis moi, j'aime ça. Puis j'ai remarqué que quand je vais voir des matchs universitaires, pour les gars, c'est un peu moins pire, mais pour les filles, on dirait qu'il n'y a personne qui vient. Ben, c'est sûr qu'il y en a, mais je trouve que le produit est bon, puis il pourrait avoir beaucoup plus de gens puis de personnes qui iraient voir les matchs. Est-ce que tu trouves, en fait, ma question, qu'il manque un peu d'engouement pour le soccer universitaire en général au Québec ou à Montréal?
Ben, moi, je peux dire que nous, on prend l'automne 2019, là. Nos foules étaient plus importantes que celles des garçons. Et vraiment, même très d'une manière assez différente. Je pense que quand tu as des résultats, ça l'amène aussi. Les gens à venir voir, c'est certain. Les résultats font le truc. Puis ça fait, je te dirais, un 3-4 ans qu'on est semblables, les garçons et les filles. On a quand même un certain engouement, nous, à l'UQAM. C'est sûr que l'accessibilité est le fun parce que, bon, tu as le métro Vio à côté. Tu as le stationnement quand même du centre Charbonneau qui est facile de trouver un stationnement. Mais moi, je pense que ce qui est le gros handicap du soccer universitaire, c'est on joue une journée sur deux, on joue le soir. Et au mois d'octobre, c'est pas être froid pour être à l'extérieur pour voir un match de foot.
Ouais.
Donc, c'est sûr que ça, c'est un défi important. Toi, le dimanche après-midi, on a souvent plus de monde que le vendredi.
Ouais.
Parce que bon, c'est deux jours, il fait encore soleil, c'est plus agréable. Bon, on est dimanche, qu'est-ce qu'on fait? On voit le match de soccer. Donc, voilà. Mais je pense que ça, il y a un petit peu des universités, c'est à eux un peu de faire la promotion quand même de leur truc, peut-être de façon un peu plus agressive. Mais oui, il n'y a pas assez de spectateurs pour la qualité de jeu que tu as. Ça, je suis d'accord avec toi.
Ouais.
Mais il y a quand même des contextes qui sont reliés à ça. Mais moi, je peux te dire que l'année passée, l'automne, je prends exemple la finale contre l'UDM où je prends les matchs qu'on a joués, je pense, contre l'UDM aussi chez nous. Je ne pense pas qu'il y ait une équipe de la PLSQ féminine qui avait autant de matchs que nous. Okay. Donc, autant de monde que nous. Donc, okay. Voilà.
Okay.
Mais c'est sûr que les résultats aident beaucoup à la présence des gens. Ça, c'est sûr.
OK. Puis parce que tu sais, c'est un happening, là. Tu vas avoir du soccer, c'est cool. Même l'Université de Montréal, eux, bon, c'est sûr qu'ils ont des comment on dit ça en anglais, c'est facile.
Estrade couverte.
Ouais, puis ouais. Ils ont des ressources, peut-être que d'autres n'ont pas, mais tu vas là-bas, tu regardes un match, tu es assis, il y a des hot dogs, il y a du popcorn, tu peux acheter de la bouffe, fait que c'est sûr que c'est le fun.
Exact.
Puis d'ailleurs, j'ai remarqué que l'UQAM, si je me souviens bien, parce que vous jouez à côté du stade Saputo, maintenant, il faut payer. Avant, il ne fallait pas payer. Maintenant, je pense qu'il faut payer
5 $. Okay. Exact. Bon, ça, c'était des décisions du centre sportif. Je te dirais, est-ce que ça leur ralentit les gens de venir? Non. On a, comme je te dis, on n'a jamais autant de monde qu'en 2019. Donc, ça n'a pas été le cas. Là. Je pense pas que c'est un frein nécessairement. Je pense que les gens qui veulent venir voir les matchs des citadins, ils viennent voir le match des citadins, même s'ils doivent payer 5$ pour rentrer. Là. Ça, je pense pas que c'est un obstacle majeur.
OK. Bon, ben écoute, ça a presque fin à notre entrevue. J'ai juste une dernière question pour toi.
Vas-y.
Bon, tu baignes dans le soccer au quotidien, toutes les semaines, depuis très longtemps. Est-ce qu'il y a des joueurs ou des équipes que tu apprécies? Je parle soccer mondial, là. À part les citadins de l'UQAM, évidemment.
Écoute, la question est bonne. Moi, je suis vraiment un amoureux de sport, ça c'est sûr. Oui, j'aimerais encourager une équipe en spécifique, en général, oui. Au soccer, je te dirais, c'est Manchester United, mon équipe, depuis le temps d'Éric Cantona déjà. Donc, c'est vraiment une équipe que je m'amuse à suivre et surtout qui elle s'amuse à me frustrer. Mais c'est vraiment l'équipe que je suis le plus. Ça serait Manchester United, puis que je connais plus, puis que maintenant, je pense que je serai toujours un fan de Man U. Je pense pas que ça va changer. Okay. En termes de joueurs, ça c'est plus compliqué comme question. C'est facile de nommer Messi, c'est facile de nommer Ronaldo, je suis portugais, donc...
Il vient de la même île que lui, non?
Non, lui vient de Madère, donc on n'est pas sur la même île, mais... un joueur... J'aimerais ça te nommer un joueur, peut-être un... tu sais, de ce temps-ci, je pense qu'aujourd'hui, Bruno Fernandes avec Manchester United... je pense qu'il me surprend. C'est ce que je veux dire ça. Il me surprend dans sa qualité aujourd'hui. Très fier de notre Canadien Alfonso Davies aussi avec le Bayern.
Mais oui. Est-ce que tu l'as connu?
Je l'ai connu, je l'ai vu. Oui, je l'ai vu avant qu'il s'en aille en Europe. Ce qui est très drôle, c'est que bon, nous, on avait Balou chez nous. Puis souvent, on comparait Balou à... De la carrière de Balou à celle d'Alfonso Davies. Donc, clairement, écoute, aujourd'hui, là, quand on mentionne son nom comme un des meilleurs arrière-gauche, sinon le meilleur au monde, je pense qu'il faut en être très, très fier comme Canadien. Là. Vraiment très fier. Là. Je pense que c'est... On parle déjà même peut-être du meilleur joueur canadien de tous les temps, puis il est tout jeune, donc il a déjà gagné une Ligue des champions... Je veux dire, on a.
C'est le premier, Canadien à gagner la Ligue des Champions.
Oui, exact. Donc, vraiment, c'est. Non, c'est ça. Mais non, c'est ça. Moi, j'aime vraiment voir des joueurs avoir des carrières agréables. J'aime ça voir des équipes aussi. Je dis, j'ai été voir un match FC Barcelone il y a 2 ans. Donc, Atlético Madrid contre Barcelone ou Canou. C'était irréel comme expérience. C'était. Donc, voilà, tu sais, j'aime. Mais si je parlerais d'une équipe portugaise, je dirais que le Benfica, qui est l'équipe de cœur de mon père. Mais sinon, de dire que je les suis beaucoup, ça serait faux. Mais voilà. Donc, ça serait mes équipes. J'ai beaucoup aimé Drogba. Donc, quand il est arrivé à Montréal, j'étais surexcité. Mais... voilà, donc ça ressemble vraiment
à
ce que je pourrais te répondre.
OK, ben écoute, on a déjà tout dit. Tu as répondu à plein de questions, c'était super intéressant. Je suis sûr que nos auditeurs vont aimer. Est-ce que tu avais des choses que tu voudrais rajouter que tu n'as pas mentionnées ou des trucs comme ça?
Non, écoutez, merci de prendre le temps de faire une entrevue puis de. Peut-être aider le soccer universitaire à se trouver encore plus d'adeptes. Donc,
ben oui.
Et s'il y a des athlètes, hein, je pense pas que j'ai une athlète dans mes 8 ans qui venait de la région de l'Estrie dans mon effectif. Donc, je sais que vous avez 2 équipes chez vous. Mais si quelqu'un souhaite venir à Montréal étudier, je serai à l'écoute.
Parfait. Ben écoute, on te souhaite une reprise très rapide du soccer universitaire, définitivement pour la saison prochaine, là, qui de août à novembre à peu près.
Exactement.
Puis moi, c'est sûr que moi, j'attends. Moi, j'ai ma part de toute façon. Là, c'est sûr que ben, je vais aller voir puis je te dirai bonjour. Là.
Mais ce serait vraiment. Tu serais le bienvenu.
Ben, parfait. Merci beaucoup, Alexandre Darrocha.
Ben, merci à toi.
Bonne fin de journée.
Bye bye.
Au revoir.
Il n'y a pas de fiction, il y a juste des faits, faits.
Des faits, faits.
Zah.
YOLO.
YOLO.
Ok, Zah. Silence, silence.
Hey. Silence.
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 Zah. On paye, on flip, on débouche, on sip.
Zah.
Des ramets, tu donnerais croustillant, cheap.
Wow.
Tu hate, t'es fake. Chirurgie, les. On débarque, on dérange, on dépense, on kiffe.
C'est comme ça!
Yeah, yeah, appelez-moi Uber, yeah, yeah. Yeah, yeah, appelez-moi Uber. J'ai pris une jambe pour le. Viens cogner si tu veux. J'accueille tous mes haters. Y'a du champagne pour le, yeah, yeah.
Yeah, yeah, je commande Uber, yeah, yeah. XL car c'est juste pour les haters, yeah, yeah. J'regarde un trou, j'vous ouvre la porte, j'retourne dans le bébé. J'éclate de quoi qui fait de l'amour, c'est pas du shampoing. Je prends un pied, je vous fous dehors à coup de pied. Si je te donne un coup de main, t'es trop à l'aise comme si j'étais un coussin. J'ai fait la cuisse d'un poulet, devenir un poussin. L'année passée, je faisais des ouvertures comme tout.
On paye, on tip, on débouche, on sip. T'es ramen, tu donnerais croustillant, cheap. Tu hate, t'es fake. Chirurgie, les. On débarque, on dérange, on dépense, on kill.
C'est comme ça!
Yeah, yeah, appelez-moi Uber, yeah, yeah. Yeah, yeah, appelez-moi Uber. J'ai pris une chambre pour deux. Viens cogner si tu veux. J'accueille tous mes haters. Y'a du champagne pour deux, yeah, yeah. Yeah, yeah, appelez-moi Uber, yeah, yeah. Yeah, yeah, appelez-moi Uber. J'ai pris une chambre pour deux. Viens cogner si tu veux.
Que ça drape, il fait chaud, ça colle mes cuisses, mes vraies fesses. Cellulite, mon poussi est magnétique. Les haters go down. Si tu go down, on est stratégique. Les fakers go down. Si tu go down, on est take it. C'est pas paix, moi, un bébé. J'ai pris une chambre pour deux bèves. Maman, maman, tu gardes tes amis proches. Puis mets les haters dans tes poches. Tiseaux chantent dans le bain, puis moi, j'bois les bulles du radin. Tiseaux roulent en joint, puis moi, j'donne les chips aux poussins.
Hey, on tip. On débouche, on sip. T'es ramen, tu donnerais croustillant, cheap. Tu hate, t'es fake, chirurgie, lip. On débarque, on dérange, on dépense, on kill.
C'est comme ça!
Yeah, yeah, appelez-moi Uber, yeah, yeah. Yeah, yeah, appelez-moi Uber. J'ai pris une chambre pour deux. Viens cogner si tu veux. J'accueille tous mes haters. Y'a du champagne pour deux, yeah.
Yeah, this album is dedicated to all the teachers that told me I never amount to nothing. To all the people that lived above the buildings that I was hustling from that called the police on me when I was just trying to make some money to feed my daughter. And all the niggas in the struggle, you know what I'm saying? It's all good, baby, baby. It was all a dream. I used to read Word Up magazine. Salt and pepper and Heavy D up in the limousine. Hanging pictures on my wall. Every Saturday, Rap Attack, Mr. Magic, Molly Mall. I let my tape rock till my tape pop. Smoking weed and bamboo, sipping on private stock. Way back when I had the red and black lumberjack with the hat to match. Remember rapping Duke? Da ha, you never thought that hip hop would take it this far. Now I'm in the limelight cause I rhyme tight. Time to get paid, blow up like the world's trade. Born sinner, the opposite of a winner. Remember when I used to eat sardines for dinner? Piece to Raw G, Brucey B, Kid Capri. Funk Master Flex, Love Bug, Star Ski. I'm blowing up like you thought I would. Call a crib, same number, same hood. It's all good. And if you don't know, now you know, nigga.
Yeah.
close and personal with Robin Leach. And I'm far from cheap, I smoke stuff with my peeps all day. Spread love, it's the Brooklyn way. The Moet and Alizé keep me pissy. Girls used to diss me, now they write letters cause they miss me. I never thought it could happen, this rapping stuff. I was too used to packing gats and stuff. Now honeys play me close like butter play toast. From the Mississippi down to the East Coast. Condos in Queens, in dough for weeks. Sold out seats to hear Biggie Small speak. Living life without fear, putting 5 carats in my baby girl ear. Lunches, brunches, interviews by the pool. Considered a fool cause I dropped out of high school. Stereotypes of a black male misunderstood. And it's still all good, And if you don't know, now you know, nigga. Genesis. When I was dead broke, man, I couldn't picture this. 50-inch screen, money green, leather sofa. Got 2 rides, a limousine with the chauffeur. Phone bill about 2 G's flat. No need to worry, my accountant handles that. And my whole crew's lounging. Celebrating every day, no more public housing. Thinking back on my one-room shack. Now my mom pimps a act with meats on her back. And she loves to show me off, of course. Smiles every time my face is up in the sauce. We used to fuss when the landlord dissed us. No heat, wonder why Christmas missed us. Birthdays was the worst days. Now we sip champagne when we thirsty. Damn right I like the life I live. Cause I went from negative to positive. And it's all. And if you don't know, now you know, nigga. And if you don't know, now you know, nigga. And if you don't know, now you know, nigga. Representing B-Town in the house. Junior Mafia, Mass Label. Yeah.
Donc, c'était l'excellente chanson Juicy de Notorious B.I.G. Et juste avant, bien sûr, on avait eu l'entrevue avec Monsieur Alexandre Darrocha, entraîneur de l'équipe féminine de soccer de l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal. Donc, avec cette petite musique de samba en arrière-plan, ben oui, on va terminer l'émission en vous donnant les matchs à venir. Et ensuite, on va avoir quelques nouvelles pour vous. Donc, match à venir demain, on a 2 matchs de Ligue des Champions, Atalanta-Real Madrid et Borussia Mönchengladbach contre Manchester City. Du côté du Real Madrid, évidemment, Karim Benzema ne sera pas là, il est blessé. Jeudi, on a des bons matchs d'Europa League, Ajax-Lille, Arsenal-Benfica et Napoli-Granada. Napoli qui a perdu 2-0 son match aller contre Granada à Granada. Donc, on va voir s'ils peuvent retourner ça. Ça va être extrêmement difficile, mais on l'espère pour les Napolitains. Samedi, on a un Séville-FC Barcelone, ainsi qu'un FC Porto Sporting Club de Portugal. Donc, si le FC Porto ne gagne pas, évidemment, je peux dire que le championnat portugais, ça serait terminé. Et le Sporting pourrait gagner son premier titre depuis 2002. Évidemment, ça sera pas samedi, là, mais ça va être bientôt. Dimanche, on a des gros matchs. On a PSV Ajax Amsterdam, un classique du championnat hollandais. On a Chelsea Manchester United. On a Grêmio Palmeiras, finale de la Coupe du Brésil. Et on a Rome contre le AC Milan. Et évidemment, on a l'Olympique de Marseille contre l'Olympique Lyonnais. Et pour terminer le tout dimanche, on va avoir Villarreal contre Atlético Madrid. Déplacement très, très, très difficile pour nos amis de l'Atlético de Madrid. Donc, eux qui viennent d'ailleurs de perdre contre Levante. Et juste avant, ils ont fait un match nul contre Levante. Donc, ça ne va pas bien. Et on va terminer avec une petite nouvelle avant de terminer cette émission de Soccer Love. Donc, notre ami Sampaoli, c'est le nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille. C'est un entraîneur qui coach depuis 1991. C'est notamment lui, lui, le petit chauve, qui a amené le Chili à son premier vrai titre ever, donc la Copa América de 2015, pardon. Mais par contre, avec l'Argentine, ça s'est mal passé. On s'en rappelle, durant la Coupe du Monde, c'était très ordinaire. Ils ont passé difficilement en battant le Nigeria, difficilement en perdant contre la Croatie et évidemment en faisant match nul contre l'Islande. En Europe, cependant, malgré qu'il entraîne depuis 1991, il a seulement entraîné un club en Europe et c'était le FC Sevilla. Sinon, notre ami, ancien joueur de l'équipe nationale d'Allemagne, Christophe Metzelder, il est accusé de diffusion d'images pédopornographiques, donc ça ne va pas bien pour l'Allemand. Il nie les faits, donc on va voir qu'est-ce qui va se passer. Il était avec l'Allemagne notamment pour 2 Coupes du Monde et 1 Euro, l'Euro 2008. Évidemment, j'ai mis la musique de Samba pour en fait rendre hommage à la mère de Ronaldinho qui est décédée du COVID. On sait que le père de Ronaldinho est décédé, ça fait quand même assez longtemps, mais sa mère est malheureusement décédée du COVID, donc mes condoléances à lui. C'est pour ça que je vais donner 3 secondes de silence. Voilà, donc j'espère que sa mère repose en paix. Et pour terminer cette émission, le Canada, on va parler un peu local, le Canada a battu l'Argentine 1-0 dans la She Believes Cup. Un but de Sarah Stratigiakis, probablement un nom d'origine grecque, donc on aime ça. Et c'était le premier match en 2021 pour les femmes. Et sinon, pour terminer l'émission, là c'est vrai, je vous mens pas, on a une nouvelle équipe qui s'est joint à la PLSQ, la Premier League de soccer du Québec, qui est une ligue de très bon niveau. On a le Royal Select de Beauport, qui est dans la région de Beauport, donc pas très loin de Québec City, qui a rejoint la PLSQ. Donc maintenant, on a évidemment plus de clubs. Donc on a 10 équipes, je parle de chez les hommes évidemment. Là, on a l'AS Blainville, le Celtic du Haut-Richelieu, le CS Favrose, CS Longueuil, CS Mont-Royal-Outremont, CS Monteuil, CS Saint-Hubert, CS qui veut dire club de soccer, le FC Lanaudière et le Ottawa South United et maintenant le Royal Select de Beauport. Et ce qui est intéressant, c'est que toutes les équipes sont plus ou moins dans la région montréalaise. Bon, Saint-Jean, Lanaudière, c'est un peu loin, mais c'est relativement près de la région montréalaise. On a Ottawa à l'ouest et maintenant on a le Royal Select de Beauport qui est dans la région de Québec. Donc peut-être que ça pourrait nous donner d'autres équipes dans les prochaines années. Donc je suis très content de cette nouvelle et j'espère qu'il y aura une saison pour cette équipe qui est entraînée par Samir Rib. D'ailleurs, sur les entraîneurs des 10 équipes, ils sont tous canadiens, sauf on a 4 Français. Avec l'AS Blainville, le CS Longueuil, on a Antoine Cataco du CS Monteuil et François Bourget du CS Saint-Hubert. Et bien sûr, l'AS Blainville avec Emmanuel Macagno qui est là depuis 2012. C'est-à-dire, je parle de l'AS Blainville là, qui est dans la PLSQ depuis 2012. C'est un très grand club de la PLSQ. Voilà. Donc écoutez, c'était pas mal ça pour nos amis de la PLSQ. Là, je vous parlais évidemment de la division des hommes. Donc sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Donc encore une fois, merci à tous ceux qui m'ont écouté. Bruno, Don, Richie, Paloma, Claudia, Giuseppe et tout le monde, toute la gang. La semaine prochaine, je vais avoir un autre invité pour vous. Donc là, j'ai décidé de prendre une autre... je dirais pas une autre direction, mais je vous dirais... de varier un peu les émissions, donc des fois évidemment collaborateurs, des fois que moi avec que des informations et des informations intéressantes, mais aussi je trouve ça important d'avoir des invités. Donc la semaine prochaine, on va s'entretenir avec quelqu'un qui a un site internet très populaire en France et qui a décidé de transformer sa passion en quelque chose d'un peu plus d'un peu plus global et d'un peu plus intéressant pour tout le monde. Donc voilà, je vous souhaite une excellente fin de semaine, une excellente semaine, stay safe. Vous écoutiez Soccer Love, animé par Wissem Bensta. Au revoir.